Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est aux États-Unis que les premières affaires de pédophilie dans l'Église sont révélées publiquement au début des années 90. Le procès d'Edward Pipala en 93 condamne ce prêtre pour des viols commis sur une dizaine de jeunes garçons. Puis le Washington Post, mois après mois, publie des accusations visant un ancien prêtre de Boston. Selon une étude du John Jay College of Criminal Justice de New York en 2004, entre 1950 et 2002, 4400 prêtres ont commis des actes pédophiles aux États-Unis, faisant 11 000 victimes. Sur le vieux continent, si on en croit le journal La Croix, qui s'y connaît, et l'archevêque de Strasbourg, Mgr Luc Ravel, des cas de pédophilie dans l'Église sont déjà mentionnés dans les apophthegmes des Pères du Désert au 4e et 5e siècle. Mais il faut attendre une quinzaine de siècles pour que les scandales éclatent. En France, on ne connaît pas encore précisément l'ampleur du phénomène. Le premier procès retentissant d'un prêtre pour pédophilie date de 2000. René Bisset est condamné à 18 ans de prison et son évêque, Mgr Pierre Piquant, à de la prison avec sursis. Depuis, l'Église de France assure que toutes les affaires portées à sa connaissance sont transmises à la justice. En 2010, une trentaine de prêtres sont ainsi incarcérés pour des actes pédophiles. Conformément à la demande de plusieurs victimes, le 7 novembre 2018, les évêques de France annoncent la création d'une commission d'enquête. Et la dernière grande affaire en date, c'est évidemment le procès du cardinal Barbarin, archevêque de Lyon depuis 2002, qui comparaît depuis le 7 janvier avec 5 anciens membres du diocèse de Lyon pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur des scouts par un prêtre lyonnais entre 72 et 92, le père Prénat. La Parole Libérée, elle, c'est une association de victimes qui est créée en 2015 par des scouts de la banlieue lyonnaise. C'est sur leur page Facebook qu'Alain Lefkovitch, notre reporter, a publié un appel à témoignages auquel ont répondu une cinquantaine de personnes, toutes désireuses de rompre un si long silence. Les trois que vous allez entendre tout de suite racontent pour la première fois ce qui leur est arrivé dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Alain Houdy, je viens d'avoir 67 ans. Et très jeune, j'ai fréquenté les établissements scolaires catholiques en internat. J'ai pas encore 10 ans quand je suis rentré. J'étais un petit gars de la campagne, fils de paysan, tout perdu. Et je suis vraiment paumé dans cette école où on est traité, moi, je trouve, comme des animaux, quoi. Et puis ça a commencé un premier soir où on est au dortoir. Et je dis au surveillant que j'ai mal au ventre et que je voudrais aller à l'infirmerie. Et là, l'homme, il me dit, non, mais tu viendras me voir. Ce soir, je t'appellerai, tu viendras me voir. Et donc, une fois tout le monde couché, il m'a appelé. Il m'a mis dans son lit, il m'a déshabillé, et il me posait des serviettes chaudes sur le ventre. Alors effectivement, ça me faisait du bien, mais ben, il n'y a pas eu que ça, quoi. Il y a eu du sexe, voilà. Je me souviens même, moi, de la puissance de mon petit bout de sexe en érection, mais après, ben ouais, hein, j'ai touché le sien... Je savais que c'était louche, quoi, mais il y a le pouvoir quand il nous dit qu'il faudra rien dire. Et puis, y a eu plein de soirs comme ça, ou la nuit, ils viennent me chercher, ouais, puis on y va docilement. Puis après, j'étais soulagé parce que je voyais que c'était d'autres élèves qui l'appelaient. Et puis un jour, il y a eu une histoire, c'est je suis convoqué, un autre élève aussi est convoqué, chez le curé préfet de division. Il a dû apprendre par quelqu'un que ce qui s'était passé, je sais pas d'où, il s'appelait l'abbé Lecomte. Et donc, ce curé, l'abbé Lecomte, nous pose des questions. Je lui raconte en partie ce qui s'est passé. Puis après, ce qu'il me dit, il faudra rien dire, rien répéter, même pas aux parents, quoi. Même pas rien du tout. L'abbé Lecomte me met dehors. Et puis, voilà, l'année s'est terminée comme ça. Je suis resté avec mon silence, mon fardeau, ma solitude, voilà. Puis après, j'ai changé d'école, je suis allé à l'école Sainte-Croix, Orléans, c'est le petit séminaire, hein. C'est pour ceux en principe qui devraient être après prêtres, mais c'est ouvert à tout le monde. Peut-être que ma mère pensait que j'allais être tenté par la prêtrise. Ouais, ça aurait été un rêve pour elle. Hein. Ça faisait un enfant de casé, quoi, déjà sur les quatre qu'on était. Donc je suis toujours interne, hein. Alors il y avait des grands couloirs sombres à l'étage, là où il y avait les dortoirs, et il fallait filer vite parce qu'on pouvait rencontrer des prêtres là-dedans. Et alors, il y en avait un, alors l'abbé Martin, là, hop, on le croisait ou on le doublait, il mettait la main, un doigt dans notre ceinture, là, mais ça me bloquait. Et après, eh ben j'étais à sa merci. Pour mettre ma main sur son sexe, là, sentir leur soutane. Et voilà, et puis il y en avait, mais ça puait la pédophilie, il y en avait plein. Il y avait l'abbé Perret qui est mort, et ben lui, ils avaient tous des chambres, ces curés, et ben lui, on allait se confesser à genoux dans sa chambre, la tête entre ses cuisses. Voilà. C'est l'abbé Perret, il venait tout le temps repérer ses proies le soir, quand on dormait à l'infirmerie. C'était pas n'importe quel curé qui traînait dans les infirmeries et dans les dortoirs le soir. À l'époque, en plus, il y avait une énorme détresse qui m'habitait, une énorme solitude. Et peut-être que j'étais une proie facile pour ces gens-là, et peut-être que j'étais docile, parce que c'était les seuls qui s'intéressaient à moi. Un jour, je me suis dit qu'on était avec l'abbé Martin, qu'on était deux mendiants d'amour. Donc, un soir dans ma chambre, ma mère m'avait jeté sur mon lit un petit livre d'éducation sexuelle, et je me souviens l'auteur de ce livre, l'abbé Violet. On y lisait que si la nuit on se prenait à avoir des érections, il fallait à tout prix, mais prier, mais à fond, parce que c'était le diable qui venait. Moi j'ai une question. Et quand c'est la main d'un curé qui vient sous les draps? À l'époque, ça détruit simplement mon monde, quoi. J'avais écarté tout le monde des adultes. C'était que des traîtres, tous des traîtres. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Même ceux qui n'avaient rien fait à mes yeux, je les accusais d'être collabos, quoi. Il m'a fallu des années de thérapie pour me dessouiller. Il y a eu des moments, mais je ne supportais plus mes mains, je ne supportais plus ma bouche, j'en voulais plus. Elles sont dégueulasses, quoi. Mais mon cul, c'est pareil. Voilà. Et je me souviens, vers 13-14 ans, avoir tendu des perches pour dire que quand même c'était chaud. Hein. Mais ma mère ne voulait pas le savoir. Elle disait qu'on était dans ces écoles pour notre bien, que tout n'était pas parfait. Ma mère a toujours dit, vous n'avez rien à nous reprocher, on a pensé qu'on faisait le mieux. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Pendant des années, j'ai réussi à mettre un voile là-dessus, puis il y a tout qu'à craquer ces dernières années avec l'histoire de Lyon, quoi. me rendre compte que ça dure toujours. C'est vrai que ces dernières années, parfois, ça sortait dans l'actualité, un prêtre qui se faisait coincer. Puis on apprenait qu'il avait déjà commis les mêmes trucs à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Puis on le déplace de ci, de là. Même des prêtres qui n'ont jamais commis ce genre de délit sont complices par leur silence. Quoi, c'est comme dans un parti politique, quoi. On sait qu'il y a des corrompus, mais on dit rien, quoi. On protège sa boutique, sa cabane. Ça. Un peu après 40 ans, hein, bon, il y a eu un élément douloureux. Hein. Ma compagne, qui était revenue d'un mariage d'un cousin, qui avait eu lieu à Châteauneuf-de-Galore, c'est dans la Drôme. C'est là où il y a une communauté qui s'appelle un foyer de charité, qui a été fondé par Marc Trodin, qui était accompagné par un prêtre qui s'appelait le Père Finet, que tout le monde glorifie également. Et elle avait été pensionnaire dans cet établissement. Et elle dit qu'il y avait des images du Père Finet. Puis elle en tient une dans la main. Elle dit, c'est drôle parce que le Père Finet, il nous donnait toujours des images. Elle dit, puis le Père Finet, il avait une odeur particulière. Puis elle prend l'image, elle la sent, et elle dit, ça sent le Père Finet. Et là, d'un seul coup, il y a silence. Elle ne peut plus parler, elle est saisie. Elle blanchit, elle peut rien dire. Il y a plein de choses qui lui reviennent. Elle a la bouche ouverte, et puis elle arrive à dire, tu sais, les confessions avec le Père Finet, c'était pas drôle. C'était la tête entre ses cuisses. Et là, après, elle s'écroule sur la table. Puis après, s'est suicidé. Voilà. Pendant des années, je suis allé voir, assister à des messes, etc. Quelque part, j'aurais aimé que ce soit pour la foi. Et en fait, non. J'allais voir mes bourreaux. C'est une façon de se pincer. Si j'en vois un, première chose que je me questionne, quoi, il l'est ou il l'est pas? T'en as touché, t'en as pas touché. Je leur en veux surtout d'une chose, c'est d'avoir souillé la spiritualité.
J'ai aucun souvenir de quand ça a commencé parce que j'étais petite et mes parents étaient enseignants dans l'enseignement catholique et pendant les vacances on allait chez mon oncle qui était le frère de ma maman en Ardèche. Il habitait un presbytère et une grande maison avec beaucoup de caves, beaucoup de greniers. Il était très doué pour nous faire jouer aux cartes, il était très souriant, il nous racontait des histoires. Mais au-delà de ça, dans les coins, ben, il ne se gênait pas, quoi. Voilà. J'ai une sœur qui a un an de plus que moi, on était très liés. Et on ne comprenait pas ce qui se passait, évidemment, on était petites. Tonton nous touchait, tonton nous violait. Enfin, mais à ce moment-là, le mot viol ne sortait pas, puisqu'on ne connaissait pas ça. Je me sentais coupable parce que en fait je me disais mais s'il me fait du mal c'est que je suis pas quelqu'un de bien. Quand on n'aime pas une bête on l'écrase avec le pied, voilà, c'est ce que je pensais, donc je dois pas être quelqu'un de bien. Et ça a duré de 6 ans jusqu'à 10-12 ans. On en parlait avec ma sœur et on se disait, bah, de toute façon, on ne peut pas en parler aux parents parce que on avait bien compris que cet oncle était un homme important, comme un dieu, quoi. Nous, on le voyait comme un dieu, quoi. Et on se disait, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas un dieu, parce qu'il nous fait mal, donc ça peut pas être un dieu, puisque lui-même dit qu'un dieu ne fait pas mal. Alors il y avait quelque chose qui collait pas, et on voyait que mes parents étaient aussi en admiration, ma grand-mère, toute la famille, devant cet homme. Donc comment voulez-vous qu'une enfant de 6, 7 ans, 8 ans, je sais plus, comment voulez-vous qu'on puisse en parler à nos parents? Inconsciemment, on sait que quelque part, on va bousiller une famille. On le sent que si on dévoile ça, tout va s'écrouler. C'est impensable pour un enfant, c'est trop dur. Alors, j'ai commencé à en parler quand mon frère s'est suicidé en 2004. Et il laisse une lettre dans laquelle il explique qu'il a été violé pendant son enfance. Voilà ce qu'il écrit. « Je ne veux pas aller à l'église. Trop de mauvais souvenirs d'un sale curé. Il m'a violé toute mon enfance. Je n'ai jamais pardonné à l'oncle Vincent. Ma vie a été gâchée depuis toujours. Je n'ai jamais eu l'amour d'une femme, d'enfant, à cause de lui. » À cause de lui, je perds mes copains. Je me suis détruit avec l'alcool. Ma vie est foutue depuis longtemps. Ne cherchez pas de photos de moi, je n'en ai pas. Je me suis toujours cachée. Je me sens sale. Je n'ai confiance en personne, pour qui que ce soit. Il est 6h30 du matin. Le dimanche 20 juin 2004, j'ai rendez-vous avec la mort. Il y a eu des dégâts physiques au niveau intime, hein. Voilà, j'ai eu des dégâts, mais ça j'en ai jamais parlé non plus. Beaucoup de douleurs, des douleurs de dos, des migraines. Et j'étais très coléreuse parce que c'était ma façon de m'exprimer enfant. Je cassais des choses, je disais ce que j'avais à dire, j'étais insolente. J'ai eu des claques, j'ai été punie, j'ai reçu des fessées, oh là, incroyable. Mais ça m'était égal. Pour moi, c'était une façon de décrire ma douleur en fait. Je ne sais pas si mes parents savaient, je me suis toujours posé la question. Il y en a qui me disent non, c'est pas possible, comment veux-tu ce qu'ils puissent imaginer ça? Je dis oui, mais enfin bon, moi un jour j'ai demandé à ma grand-mère, ben, mémé, elle est où ma sœur? Elle me dit, oh, ben, elle est avec tonton. Mais moi ça m'a interpellée, je savais ce qui se passait, mais ma grand-mère ça l'a pas interpellée. Je ne sais pas si je peux en vouloir à mes parents parce qu'ils seraient encore en vie, bien sûr, je leur aurais demandé. Mais ça, j'ai arrêté de me questionner là-dessus puisque je n'aurai jamais de réponse. Mais il y avait cette croyance en Dieu chez eux énorme et cette adoration devant mon oncle qu'il fallait pas. Je sentais bien qu'il fallait pas la toucher, quoi. Tout ça, c'était de la foutaise, tout ça, c'était du mensonge parce qu'en fait, c'est une trahison énorme. Trahison envers Dieu, trahison de famille aussi. Que ce soit inconscient ou pas volontaire, mais j'ai été quand même trahie parce qu'ils m'ont pas protégée. J'étais seule, complètement seule. Et quelque part, de toute façon, chaque victime, même s'il s'exprime comme moi je le fais aujourd'hui, reste seule. Cet oncle est mort en 82. Il s'est retrouvé à l'hôpital, il a fait donc un accident cardiovasculaire. Et avec ma soeur, on a passé 2 jours donc, pour l'accompagner dans sa fin de vie. Et après, je me suis dit, mais pourquoi tu es allée là-bas? J'ai eu un déclic parce que je me suis dit, mais en fait, tu n'es pas allée là-bas pour l'accompagner, c'était pour vérifier s'il était bien mort. Et comme ça, il ne pourrait plus faire mal à personne. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. J'ai attendu presque 50 ans pour parler de ça. J'ai mené une vie à peu près correcte. J'ai pas fait d'excès. Oh, j'ai fait des conneries, heureusement. Maintenant, ben, je m'occupe de moi. J'ai élevé mes enfants, je pense que je les ai bien élevés. Mais maintenant, c'est moi. Je vais en terminer avec cette histoire. Sur la fratrie de 8, 3 enfants ont été touchés. Ma sœur qui est morte en 2012, à 54 ans quand même, mon frère à 50 ans. Et je me dis, je suis la seule survivante. Il faut que je me batte, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et chaque fois que je me lève le matin, je me dis, putain, t'es en vie, t'as bien de la chance, fonce. C'est ce que je me dis, je suis en vie, mais vis, et je vis. du mieux que je peux.
Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 60 ans et je suis musicien. Donc j'ai rencontré le père Natrelin en 75, il était aumônier du lycée Arago à Paris. Et je sais qu'il faisait des espèces de séminaires, il partait dans des week-ends, puis il faisait des séances corporelles, donc ils étaient en sous-vêtements, puis ils faisaient la décontraction, on les voyait qu'ils se portaient, comme ça. Enfin, j'avais trouvé ça un peu bizarre, en plus dans le cadre de l'aumônerie, enfin, c'était un truc catholique. Puis je me rappelle aussi une fois, il lisait des textes sur la masturbation. Voilà. Et puis après, il m'a dit, bon, il faut qu'on se revoie. Mes parents lui ont demandé d'être mon thérapeute et c'était suite à ma première tentative de suicide, quoi. On lui a demandé de me suivre en thérapie, quoi. Il se présentait comme prêtre et psychanalyste et puis m'a invité à le voir régulièrement où il me posait des questions assez intrusives sur mon sexe. Il me dit là comment tu te sens par rapport à ton sexe. Ou par exemple des questions genre est-ce que tu te masturbes debout ou je sais pas quoi, est-ce que tu te regardes. Je sais pas trop à quoi répondre, mais j'avais marqué un truc un petit peu bizarre, mais bon, il semblait plutôt gentil. Donc voilà, et après, j'ai une longue période où j'ai consommé d'alcool, enfin ce qu'on appelle l'alcoolisme. Et donc je vois un livre de Natrelin à la FNAC et je me dis. Tiens, ben, ça serait bien parce qu'il est prêtre et analyste, donc il aurait, je préfère un travail psychologique. En plus, comme il a la dimension spirituelle, ce serait cohérent par rapport à ce que je fais, quoi, avec les alcooliques anonymes. Pour que la thérapie fonctionne, donc il me propose de faire des séances particulières de massage. Mais dans l'esprit, c'est pour intégrer la masculinité. Voilà, il dit que j'avais un déficit par rapport à mon père, donc il fallait que j'intègre la masculinité, la paternité. Bref, il vous masse le corps, voilà, recto verso, enfin il n'y a pas de, il y a aucun geste déplacé. Et après, au bout d'un an, voilà, faut qu'on aille plus loin, et donc ça finit par une sorte de masturbation, avec éjaculation, etc., etc. On est nu, on est sur une table, genre de massage. Enfin, ça a l'air très médicalisé, quoi. Hein, vous posez vos vêtements là, lui l'arrivée, il retire sa veste. Enfin, comme s'il y avait une grande cohérence, quoi. Comme si c'était une méthode éprouvée, qui était scientifique, avec beaucoup de des repères très concrets, quoi. Puis il fait son truc, puis après, voilà, après il y a un rituel, faut intégrer, vous posez la main sur le visage, voilà. Puis après, il y a un petit débriefing, on se retrouve dans son dans le cabinet, en face à face, et on débrief. Alors, comment ça s'est passé? Il sait bien, oui. En même temps, il y a l'acte sexuel, enfin une espèce de jouissance, donc on pourrait croire que c'est bien, mais c'est malsain, c'est glauque, c'est violent, c'est pas à sa place, quoi. Quand ça s'est produit, j'avais 33, 34 ans. Et ça a duré entre 33 et 36 ans, quoi. Donc j'étais abusé, effectivement, par ce prêtre thérapeute, mais j'étais majeur. J'avais confiance en lui parce que je l'avais connu jeune. Et puis il avait une certaine notoriété. Il écrivait des livres, il passait à la télé. J'étais peut-être impressionné par rapport à ça, quoi. Je me dis, il sait de quoi il parle, quoi. Voilà, on accepte, et puis... Malgré ces séances et les choses que j'ai subies, voilà, ma vie progressait. Professionnellement, ça allait pas trop mal. Bon, je fais de la musique, mais je suis comédien aussi, je fais du télé, du cinéma, du musical. Et quelque part aussi, j'aime la vie, je suis ambitieux, j'aime ce que je fais. C'est pas mal, mais bon... Je porte ça, puis je me suis réveillé, ça m'est revenu à ma conscience, j'avais 57 ans, quoi. Enfin, voilà, c'est très étrange. Enfin, ça m'est remonté à la conscience il y a 2-3 ans. C'est là que je me suis aperçu que c'était pas normal. Et en même temps, j'ai vécu ça avec ça pendant longtemps. Et d'ailleurs, je m'interdisais à en parler à personne. Je dis, si j'en parle, les gens ils vont me dire que c'est n'importe quoi. Donc je savais que c'était n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose que moi que je niais longtemps. Je comprenais pas que les autres, si tu vis un truc comme ça, bah tu t'en vas, etc. Là, j'étais vraiment sous emprise. C'est-à-dire que j'étais fragile quand même psychologiquement à la base, quoi. Ce monsieur est thérapeute, cardinal, a été conseiller au Vatican de Jean-Paul II, et qu'il avait des discours très virulents contre l'homosexualité, contre le préservatif, le mariage pour tous, etc., etc. Dès qu'il y avait un séminariste qui était soupçonné ou qui exprimait ses tendances homosexuelles, on lui envoyait. Et lui, s'il voyait que ce séminariste était homosexuel, il empêchait son accession à la prêtrise. Et quand j'ai vu qu'il y avait des plaintes dans la presse par rapport à ce monsieur, il m'a appelé pour faire un témoignage en sa faveur. Et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, enfin, j'ai quand même en parlé à mon thérapeute. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça existe dans des thérapies qu'à un moment, le thérapeute en arrive à masturber son patient et le faire éjaculer? Et bien sûr, la réponse est immédiate, mais non, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, c'est violent. Et là, on a remonté la filière, il m'a dit, écoute, je connais des journalistes à Mediapart, et puis là, il y a eu un début de procès, simulacre de procès canonique, mais on ne savait pas que les faits étaient prescrits. Et qu'il faut faire une demande auprès du pape pour que la prescription soit levée. Et le pape ne lève pas la prescription. C'est là où je suis vraiment en colère, quoi. Je comprends pas leur cohérence par rapport à leur message christique de vérité, de justice. Je comprends pas, quoi.
C'était La Parole Libérée, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par l'ISCOM avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Merci à Olivier Savignac, à Marie-Françoise, Jean-Pierre et Alain Houdy. Merci à tous ceux de La Parole Libérée qui ont répondu à notre appel à témoigner que nous n'avons pas pu rencontrer. À ce sujet, bien sûr, voir le film de François Ozon, Grâce à Dieu, dans tous les bons cinémas. Et à suivre également sur nos antennes, dans les journaux, la réunion à Rome ce week-end des plus hauts représentants de l'Église pour un sommet sur la protection des mineurs, convoqué par le pape François lui-même. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Nino Lima, notre stagiaire.